Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le président angolais et président en exercice de la SADC, chargé par ses pairs de rapprocher Kinshasa et Kigali. Mission reçue samedi dernier à Luanda, à la clôture du sommet de la SADC, avec des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de cette communauté en RDC, dans le but d'y restaurer la paix et la sécurité. Et double cérémonie samedi dernier à Kinshasa, du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en RDC, mais aussi du vernissage du premier dictionnaire congolais de la langue des signes. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi a appelé les acteurs, aussi bien privés que publics, à la mise en œuvre des mesures d'application de cette loi. L'invité de ce journal s'appelle Viviane Kabusue Mulongo, une dame qui souffre depuis 15 ans du vitiligo, une maladie de pigmentation de la peau. Elle explique sa perception de cette maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la société. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Le président angolais et président en exercice de la SADC, João Lourenço, a été chargé samedi dernier par ses pairs de rapprocher Kinshasa et Kigali pour parvenir à la paix dans l'est de la RDC. Il a reçu cette mission lors de la clôture du sommet de la SADC tenu à Luanda. Le sommet de Luanda a ainsi fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Les États membres de cette organisation sous-régionale ont également salué les efforts déployés par João Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans cette partie de la RDC. D'autres détails du communiqué final de ce sommet avec vous, Alain Irung.
Le sommet a fait part de ses vœux de paix et de succès à la République de Madagascar et à la RDC car ces deux États membres de la SADC tiennent leurs élections en novembre et en décembre 2023 respectivement et a réitéré le soutien de la SADC par le biais du déploiement de la mission d'observation électorale de la SADC, a indiqué le communiqué final de ce forum. Les pays de la SADC ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et à la reprise de la guerre du M23 en violation du cessez-le-feu. Cette réunion a félicité les États membres et en consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission SADC en RDC. Cette rencontre a rappelé la nécessité de prendre le devant dans les efforts visant à mobiliser des ressources nécessaires à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région de la SADC. Ces efforts incluent la relance des échanges en vue d'établir et de rendre opérationnel le Fonds pour la paix de la SADC ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux de coopération.
Entre-temps, sur terrain au Nord Kivu, des combats ont été signalés hier dimanche aux environs de la cité de Kichanga dans les territoires de Masisi. Selon des sources sur place, les rebelles du M23 RDF ont attaqué les positions de la coalition des groupes armés locaux, notamment à Kabale Kasha, Burungu et Rouchebeche. Des notables dans la zone indiquent que les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, chercheraient à percer pour réoccuper notamment Kibarizo, Kibaririzo, Mushaki et Kireluire afin d'avoir le contrôle de la route. Le porte-parole du gouverneur confirme et condamne ces attaques. Jacques-Yves Molima revient sur la situation qui a prévalu hier dimanche dans cette région.
Les notables dans la zone expliquent que le M23 a attaqué deux positions des résistants patriotes à Nyakabingu et Kabale Kasha, à environ 3 et 5 km de Kichanga sur la route de Goma. En fin de matinée, certains habitants de Kichanga que nous avons contactés indiquent que les tirs s'éloignent de plus en plus de la cité. La société civile dans la zone note que la crainte est perceptible au sein de la population de Kichanga. Une crainte due au fait qu'il y a quelques jours, les rebelles du M23 avaient promis de s'en prendre à la population si seulement les résistants patriotes attaquaient la cité. Pendant ce temps, les quelques personnes qui avaient commencé à regagner les localités autour de Kichanga comme à Nyakabingu fuient de nouveau pour se mettre à l'abri à Kichanga. Pour sa part, le colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur militaire, condamne ces attaques des rebelles du M23 appuyées par l'armée rwandaise.
Et puis, la population du territoire d'Irumu doit se liguer pour la promotion d'une paix durable et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés locales. C'est le message adressé par le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri aux différentes couches sociales de cette contrée lors de sa mission de 2 jours qui s'est clôturée samedi dernier à Komanda. Marc Karnassoro a demandé aux leaders communautaires de bannir les violences en recourant au dialogue pour régler leurs différends et aux groupes armés de se débarrasser des armes en vue de créer un environnement propice qui attire les investisseurs et permet la relance des activités agricoles et économiques pour le bien-être de toute la population. Il est au micro d'Isaac Remouyopi.
Je voudrais juste insister sur 2 éléments. Le premier, c'est l'importance de la cohabitation pacifique. Il est important pour que la paix revienne. Il est important pour que tous les efforts de développement qui vont se faire puissent se consolider, que tout le monde adhère au principe de cohabitation pacifique, qu'on puisse vivre ensemble. Et je n'ai aucun doute que la jeunesse même trouvera son compte dans cette cohabitation pacifique. Le deuxième point, c'est la question des groupes armés. Les jeunes gens doivent se débarrasser des armes. Le problème réside dans les armes. Il faut qu'impérativement, ils viennent rejoindre le programme DDRCS et déposer ces armes-là, que la communauté les voit en train de se débarrasser de ces armes. Ça va rassurer tout le monde. Ça va créer une autre dynamique. Les routes vont se faire, les gens vont aller au champ. L'agriculture va reprendre, le commerce va reprendre, tout le monde aura quelque chose à faire, tout le monde pourra se retrouver.
Et durant ce séjour à Komanda, le chef de bureau de la MONUSCO, Ituri, a échangé avec les représentants des jeunes, des femmes, des communautés, de certains groupes armés et des services de sécurité. Le président Félix Tshisekedi appelle les acteurs, tant publics que privés, à la mise en œuvre des mesures d'application de la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en République démocratique du Congo. Appel lancé samedi dernier ici à Kinshasa lors de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de cette loi et du vernissage du premier dictionnaire congolais de la langue des signes. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Bien que ces progrès viennent conforter cet engagement à la fois personnel et politique, puisque traitant du respect du principe d'égalité nous transcendant collectivement, il demeure néanmoins de garder à l'esprit les nombreux défis, notamment ceux relatifs à la gouvernance du secteur portant sur la question du handicap, qu'il demeure de relever pour réenchanter le vécu des populations concernées. C'est pour cela que j'en appelle à l'implication de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, à la mise en œuvre, chacun en ce qui le concerne, de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap en République démocratique du Congo.
Et pendant ce temps, dans la province de la Tshopo, après plusieurs mois de grève, les infirmiers ont décidé de reprendre le travail dès ce lundi 6 novembre. Ils l'ont fait savoir ce week-end au cours d'une assemblée générale tenue à l'hôpital général des références de Makiso, Kisangani. Selon les porte-parole du syndicat des professionnels et administratifs de santé, cette reprise est consécutive à une réponse favorable du gouvernement à certaines de leurs revendications, notamment la paie complémentaire ainsi que la prise en compte de l'alignement des 11 000 infirmiers et agents administratifs à la prime professionnelle. Didier Wakambu explique dans ses propos sélectionnés par Jacques Moukonkolé.
Nous vous informons que le travail reprendra à partir du lundi 6/11/2023. Au regard des quelques résultats enregistrés en ces jours, notamment la paie complémentaire. Toutefois, les syndicats des professionnels et administratifs de santé vous demandent d'instruire au ministre concerné de parachever dans un bref délai la mise en œuvre de 1. Alignement à la prime de risque dont les listings sont déjà disponibles au budget. La promotion en grade et admission sous statut des professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la fonction publique. De plus, les syndicats des professionnels et administratifs de santé n'approuvent pas les menaces qui pèsent sur les agents suite au mouvement de la grève.
Radio Capi amorce à partir d'aujourd'hui une nouvelle série de reportages sur les déploiements du matériel électoral par la CENI à travers le pays à quelques semaines des élections du 20 décembre 2023. Nous commençons par le Grand Équateur où l'opération va bon train à travers les 5 provinces. Malgré les difficultés liées à l'état de certaines routes, les kits ont déjà atteint les antennes au niveau de chaque territoire, affirme la CENI. Entre-temps, conformément au calendrier des opérations, la formation de niveau 2 se clôture ce lundi 6 novembre. Le point avec vous, Paul-Richard Malinguela.
Nos contacts avec les 5 secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI Équateur, Mongala, Nord et Sidoubangui, ainsi que Tchouapa, révèlent que partout la CENI a déjà déployé au niveau des antennes les DEV, dispositifs électroniques de vote, jadis appelés machines à voter. Au Sidoubangui, par exemple, depuis le 25 octobre, 536 kits ont progressivement atteint Guémena, Boudjala, Kongo, Elibenge et Zongo, y compris les kits bureautiques, a souligné le CEP Bézar Libeki. Et le déploiement s'est poursuivi avec les isoloirs, a-t-il dit. En tout cas, jusque-là, les opérations se déroulent conformément au chronogramme établi, a indiqué Mme Nelly Ikete, la secrétaire exécutive provinciale de la CENI au Équateur. Partout au Grand Équateur, la formation du niveau 2 pour les membres des CEF, chefs d'antenne, informaticiens et formateurs électoraux nationaux a eu lieu du 28 octobre au 6 novembre. C'est qu'a rassuré son collègue de la Mongala, Norbert Mandima. Toutefois, ça et là, la CENI a connu quelques difficultés liées au transport des matériels vers les antennes à cause du mauvais état de certaines routes. Le cas de la RN24 où un véhicule de la CENI s'est embourbé à Bossobol dans le nord Ubangi, mais aussi à Kungu dans le sud Ubangi. La CENI a alors recouru à des motards afin que ces matériels parviennent à destination. Bondaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Justement, à quelques semaines des élections, le comité laïque de coordination s'est dit préoccupé par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays et la misère sociale qui expose les populations aux candidats les plus offrants. Le CLC l'a déclaré ce week-end à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, cette structure de l'Église catholique félicite la CENI et la Cour constitutionnelle pour le travail abattu. Elle dit souhaiter que ces signaux positifs émis par ces deux institutions puissent se poursuivre jusqu'à la fin du processus électoral. On écoute les explications de Maître Emery Lukombo, porte-parole du CLC au micro dans les Irung.
Les CLC demeurent préoccupés par la persistance de l'insécurité dans plusieurs régions du pays et par la recrudescence de la misère sociale, accentuée ces derniers temps par la hausse des prix des produits de première nécessité. À ce compte-là, les futurs électeurs risqueraient d'être prisonniers des candidats les plus offrants pour les besoins de résoudre leurs problèmes de subsistance au quotidien. Raison pour laquelle le CLC insiste pour que les préoccupations électorales n'occultent pas totalement les besoins vitaux de notre population, encore et toujours en proie à des violences multiples, des injustices inacceptables et une précarité encore plus importante auxquelles il faut faire face.
Par ailleurs, au Sud Kivu, une femme accède pour la toute première fois au rectorat de la prestigieuse Université évangélique en Afrique, UEA, pour un mandat de 5 ans. Professeur Dr Ngongo Fatuma Kilongo a été vêtue des insignes de commandement samedi dernier sur la colline de Panzi à Bukavu. Elle succède au professeur ordinaire Mouchagalou Sanatigera Gustave, qui a dirigé l'UEA durant 3 mandats successifs. Dans son discours programme, la nouvelle rectrice de l'UEA s'est engagée à pérenniser les acquis légués à son institution par les recteurs sortants. On écoute la professeure Dr Ngongo Fatuma dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, mais aussi un sentiment d'interpellation. Les innovations, on ne peut pas les manquer. Le recteur a fait 15 ans. La grande chose que nous devrions faire, c'est de maintenir d'abord ce qu'il a fait comme acquis. Mais à part les acquis, il y a d'autres choses. Nous sommes dans une certaine nouveauté au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Nous devrions fournir un effort pour implémenter les systèmes LMD au niveau de l'IEA. En vue, nous avons des masters complémentaires et des masters complets que nous devrions commencer dès l'année prochaine. Nous devrions aussi, dans la mesure du possible, construire un bâtiment administratif avec des moyens locaux et continuer à garder l'étudiant au centre de tout ce que nous faisons en l'accompagnant sur tous les plans. Le professeur Gustave a fait grand chose, mais il reste toujours à faire.
Notez que l'Université évangélique en Afrique UEA est l'une des rares institutions universitaires de Bukavu dotée des infrastructures modernes, fruit du partenariat développé avec les autres universités occidentales, dont l'Allemagne.
Actualité internationale.
À Conakry, le calme est revenu hier dimanche au lendemain d'une journée de tension autour de l'évasion de quatre personnalités de la maison centrale. Trois d'entre elles, dont l'ex-président Dadis Camara, ont retrouvé leur cellule samedi soir. Mais pas Claude Pivi, l'ancien ministre de sécurité et de la junte, toujours activement recherché par les autorités. Au Cameroun, après l'émotion et la médiatisation du drame de Mbakolo à Yaoundé, les familles des victimes de l'effondrement de terrains meurtriers du 8 octobre dernier attendent toujours de pouvoir enterrer leurs proches.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Viviane Kabuswe Mulongo, une dame qui souffre depuis 15 ans du vitiligo, une maladie de pigmentation de la peau. Elle explique sa perception de cette maladie qui prend de plus en plus l'ampleur dans la société. Viviane Kabuswe Mulongo s'entretient à Lubumbashi avec Jean Gandou en marge de la formation organisée jeudi dernier par l'association franco-congolaise du vitiligo. Écoutez.
Vivi Kabuswe, bonjour.
Bonjour.
Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez le vitiligo?
Quand j'ai accouché, c'était en 2008. Ma fille a eu 3 mois. Après, j'ai commencé à voir le tache qui était un peu blanc sur le corps. Ça commence à s'agrandir. Mes lèvres étaient toutes roses. Alors, je me suis dit que j'aille un peu voir un dermatologue. Il ne m'a pas dit que tu as le vitiligo. Il m'a dit tu as la maladie de la peau. C'est comme ça que j'ai continué avec les médicaments. Ne m'aidaient pas. Il y avait les autres qui me disaient non, avec le dermatologue, ça ne va pas aider. Voir un tradi. J'ai commencé à voir du tradi, mais il n'y avait pas toujours de solution jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous ces temps qu'on vit, on n'a jamais eu de médicaments. Et on nous a dit qu'il y a les médicaments qui vont arriver, c'est pas dans 2 semaines. Dans 2 semaines là, nous sommes contentes. Et on a dit qu'il y a le lampe qui sont déjà arrivés. Là, c'est une bonne chose pour nous parce que moi, ça fait maintenant 15 ans avec cette maladie. Et aujourd'hui, trouver une solution, c'est vraiment bénéfique pour moi.
Vous vous êtes dit que c'était une maladie mystique ou une maladie normale?
Une maladie mystique. Une maladie mystique, c'est ce qu'on se disait. Même à la maison, chez nous, tout le monde se disait c'est une maladie mystique.
Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était une maladie que tout le monde pouvait avoir ou attraper?
Une fois, quand je suis parti chez les tradis, je n'ai pas trouvé de solution. Je suis encore rentré chez les dermatologues. Il m'a dit, madame, cette maladie est normale, ce n'est pas contagieux. Tu peux vivre avec, tout le corps sera blanc. Et après, j'ai commencé à voir d'autres personnes avec. Alors, je me suis dit, j'ai commencé aussi à faire des recherches sur l'Internet. Ma famille aussi faisait des recherches. Alors, je me suis dit, c'est une maladie normale. Le médecin m'a fait voir vraiment que tu peux vivre, ce n'est pas le sida qui est contagieux. Vis avec.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'accepter le vitiligo dans votre vie?
Accepter, non. Parce que quand je vois mes anciennes photos, comme j'étais et aujourd'hui, et je n'accepte pas. Parce que même à la maison, mon mari qui vit avec moi ne l'accepte pas. C'est lui qui doit me consoler. C'est lui qui doit me réconforter, ne l'accepte pas. Jusque-là, non, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est pas parce que moi, je ne comprends pas, ça vient d'où? Pourquoi seulement moi?
Et quel regard la société a sur vous?
Un mauvais regard, comme mon ancien quartier là où j'habitais chez ma grand-mère, quand les gens me voient même aujourd'hui. Et Vivi, c'est comme ça que tu es devenu. Tout le monde s'étonne, tout le monde se demande, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres on te voit. Vivi, c'est quoi ça? Hein? Comme nous autres, on s'est mariés aux gens qui ne sont pas de notre tribu, se disent, c'est peut-être parce que j'ai épousé un monsieur qui n'est pas de ma tribu, c'est pourquoi j'ai eu ça. Il y a vraiment un mauvais regard.
En suivant cette formation, est-ce que ça vous a aidé à quelque chose?
Ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai vu qu'il y avait un médicament pour stopper. Parce que pour moi, tel que vous me voyez, ça continue. Je me demandais, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter au moins ça? Alors, quand j'ai écouté le médecin qui disait qu'il y avait un médicament qui pouvait arrêter, là, j'étais réconforté.
Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont le vitiligo?
Non, seulement moi.
Et c'est ce qui vous a abattu?
Oui. Oui.
Maintenant que vous avez suivi la formation, vous avez au moins l'assurance qu'il y a moyen de stopper cette maladie. Oui. Est-ce que ça vous réconforte?
Oui, je suis réconforté. Oui, oui, oui.
Un message à envoyer à tous ceux qui ont le vitiligo comme vous, oui, et qui se sentent abandonnés et qui se disent avoir subi un mauvais sort dans la société.
Ce que je peux dire, c'est que le vitiligo, c'est une maladie comme toute maladie, comme la malaria, qui peut être soignée, comme on a trouvé les médicaments. Je dirais à mes frères, mes sœurs qui sont atteints du vitiligo, de ne pas vraiment perdre l'espoir. Il y a les médicaments qui est là déjà, on sera guéri.
Madame Vivi Kabusué, je vous remercie.
Merci, papa.
Et c'était notre invitée, Viviane Kabusué Mulongo, une dame qui souffre du vitiligo, une maladie de pigmentation de la peau qui s'entretenait à Lubumbashi avec Jean Gandou. Ce journal a été préparé par Alain Irung, Pierre Diassounois, la mise en onde. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.